course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Eh bien, bienvenue sur Radio Terre Paille. Les soulèvements de la Terre et leurs alliés ont lancé un appel international à des journées d'action contre Lafarge et le monde du béton. Cela se passera un peu partout en France, du 9 au 12 décembre. À Tours, c'est aujourd'hui, 9 décembre, que là ça se passe. Et nous avons réquisitionné la fréquence de Radio Béton, ce média qui n'a pas honte de porter un nom au lourd relent du capitalisme, comme on le verra tout à l'heure. Alors, mais commençons d'abord par présenter ce carnaval manifestif et constructif contre le béton et son monde sur les ondes de Radio Terre Paille. Nous recevons Moumouche. Moumouche, bonjour.
Bonjour. Bienvenue sur Radio Terre Paille.
Alors d'abord, redis-nous un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là ce midi sous la pluie.
Parce qu'on a voulu, avec les différents comités des soulèvements dans le 37, répondre à l'appel de tout un conglomérat de coalitions et d'associations et de mouvements syndicaux et des soulèvements de la terre et de plein d'autres associations. Dans l'idée de dire que le béton c'est de la merde et que ça produit de la merde et qu'on a envie d'imaginer d'autres choses. Et voilà, donc comme le disait le camarade tout à l'heure, le béton ça nous asphyxie, ça empoisonne les rivières, ça détruit les sols.
Ouais, on reviendra là-dessus, mais ouais. En fait, quels sont en Indre-et-Loire, quels sont les mouvements qui participent à l'opération d'aujourd'hui?
Okay. Il y a comme je disais tout à l'heure, les différents collectifs des soulèvements de la terre. Du coup, il y en a un vers le bassin versant de Chinon, il y en a un à Tours, il y en a un dans le sud de Touraine. Il y a Solidaire aussi qui a répondu à l'appel, et puis Radio Terre Paille.
D'accord. Les dernières rénovations, rébellions.
Je pense qu'ils sont avec nous aussi, ouais, bien
d'accord.
Sûr.
Alors, c'est donc l'anniversaire de l'intrusion de la cimenterie Lafarge à Bouc-Bel-Air, c'est ça?
Oui, exactement. Et du coup, c'est l'idée aussi, c'était d'être solidaire avec les inculpés, de marquer le coup de cet anniversaire qui est important pour nous, important pour la lutte. Et voilà, donc nous on a décidé de faire ce carnaval festif, de faire cette émission radio avec vous. Et partout en France, il se passe d'autres choses tout le week-end, donc restez attentifs aussi, il va se passer d'autres actions.
Alors le béton, il nous asphyxie, c'est-à-dire que c'est une des industries polluantes de la Terre.
Le béton, c'est 8% des émissions de CO2, si je ne me trompe pas. Ici en Indre-et-Loire, on a une grosse cimenterie à Villiers-au-Bouin, et notamment avec l'aide de la région et du département, ils sont en train de le transformer en incinérateur. Et du coup, ça veut dire en fait que pour cuire la chaux, ils sont en train de cramer nos déchets, donc des pneus et tout un tas de trucs, on ne sait pas trop bien c'est quoi. Du coup, je doute que ça fasse du ciment vert par exemple.
Du ciment à la dioxine, d'accord. Et ils empoisonnent nos rivières, alors toujours pour les mêmes raisons, je suppose.
Notamment parce que quand ils font l'extraction du sable ou l'extraction du calcaire, ça détruit des nappes. Et du coup, quand ils lavent aussi les cailloux, je pense qu'après, il y a des rejets dans les rivières. Du coup, c'est de la création du ciment à son utilisation, ça produit quand même pas mal de merde.
D'accord, donc destruction des sols et des fonds marins, parce que le sable est quand même une ressource largement utilisée et très utilisée par l'industrie du béton.
Par exemple, en mer du Nord, il y a des bateaux spécialisés qui vident les fonds marins pour récupérer le sable. Du coup, en fait, ils en prennent un peu partout, quoi, dans les rivières, notamment ici, dans le nord de Tours, il y a une carrière de sable dans la Loire. Voilà. Donc, ils ont tout un tas de possibilités pour récupérer du sable.
Et donc, ils sont ce béton, il est omniprésent dans tous les grands projets écocides que le capitalisme, les industriels et les politiques peuvent avoir comme idée. Hein. On en retrouve dans les EPR, on en retrouve dans les Jeux Olympiques, on en retrouve un peu partout. Alors qu'on parle de la limitation, voire de la zéro artificialisation des sols, le béton, lui, est un magnifique contre-exemple de cet arrêt de l'artificialisation.
Oui, moi je crois qu'il y a quand même un peu un gros fait que dans cette histoire de non-artificialisation des terres, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui est en train de se passer, notamment sur la candidature de Chinon sur les deux EPR. Chaque EPR, ça fait 700 000 tonnes de béton, du coup ça va faire 1,4 milliard, et ça c'est sans compter les déchets, c'est sans compter les routes pour y accéder. Donc, ils n'arrêtent pas d'en produire et ils ne vont pas arrêter d'en utiliser, sauf si on les désarme.
Voilà, et on a vu aussi que donc Lafarge et les autres industries du béton n'hésitent pas à avoir des attitudes assez mafieuses. On l'a vu avec Daesh, mais de toute façon, les pots de vin des entreprises du béton, c'est pas de la Libye ni de l'Irak, ça dure depuis très 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 longtemps, cette attitude mafieuse.
Moi, je vois par exemple la répression des inculpés du 10 décembre. Je pense que quand même le lien entre l'État et l'industrie, il est clair, quoi. L'État protège ça et met les moyens de la répression. Enfin, ça, ils n'ont pas l'air d'être pas copains, quoi. Ils ont plutôt l'air d'être bien copains.
Alors sur Radio Terrepaille aujourd'hui, on va voir plusieurs aspects du béton, le côté capitaliste qu'on verra avec Anselme Japp tout à l'heure, et puis on verra aussi les alternatives à la construction, de l'utilisation du béton dans la construction, avec des professionnels du bâtiment, avec une artisane qui viendront parler sur Radio Terrepaille des alternatives. Toi-même, tu as eu une expérience dans la construction alternative ?
Oui, moi j'ai vécu dans un quartier autogéré en Belgique. Ça s'appelle le quartier de la baraque. Du coup, c'est un quartier qui représente à peu près 140 habitants, dont une quarantaine d'enfants à l'époque. Hein, ça fait quelques années que j'habite plus là-bas. Et du coup, c'était un projet d'habitat vernaculaire, d'autogestion en urbanisme, peut-être un peu plus qu'un éco-quartier. C'est pas un terme qu'on utilisait beaucoup à l'époque. Et moi, par exemple, le fait de pouvoir me loger dans un...
Redis quand même l'habitat vernaculaire, parce que je ne suis pas certain que tout le monde soit bien au fait de ce que c'est que vernaculaire. Moi-même, les premières fois que j'ai lu des bouquins sur l'habitat vernaculaire, j'ai d'abord été voir Google Larousse pour savoir ce que c'était.
Okay. Alors moi, je le définis comment vernaculaire. Je dirais plutôt que si je construis un habitat, ben en fait, je vais un peu le faire sans faire des plans, en ramassant ce que je trouve autour de moi. Du coup, moi, par exemple, j'étais en ville, donc je faisais de la récupération.
Parce que vernaculaire, ça ne veut pas dire à l'arrache.
Non, mais en tout cas... peut-être c'est aussi s'autonomiser de l'industrie de la construction, l'architecte qui pense à ta place. Je ne sais pas trop comment le définir d'autre. Si vous avez envie de vous renseigner, vous pouvez lire aussi L'art d'habiter d'Ivan Illich. Et je pense qu'il en parle mieux que moi, par exemple.
Bon, et donc, tu en es ressorti comment cette expérience belge ?
Moi, j'ai trouvé ça assez enrichissant en termes de lien social et d'expérience de construction. Et par exemple, moi, le fait de pouvoir habiter dans un habitat du tout qui m'avait coûté vraiment pas grand-chose, ça me permettait d'être investi dans des luttes, notamment autour d'une maison de jeunes autogérée. Et du coup, j'ai aussi l'impression que s'autonomiser autour de l'habitat, c'est se débarrasser d'une menotte que le système nous met avec les crédits, avec... habiter, ça coûte cher et je pense qu'il faut aussi se battre contre ça.
Bon, bien, on verra avec Marie et Manu tout à l'heure, justement, une déclinaison de cette nouvelle façon de pouvoir envisager l'habitat et de la construction. Eh bien, merci Momouche. On va se faire une petite pause musicale. Arnaud qui est à la technique. On va s'écouter. La playlist a été entièrement concoctée par l'équipe de Radio Terrepaille, et on va commencer avec Arval, Soulève-toi, parce que je pense que c'est quand même bien d'actualité. Soulève-toi sur Radio Terrepaille sur 93.6.
Les bras, les jambes, des casques et bâtons.
À ton avis, c'est pour quoi faire ?
C'est pour faire la bagarre.
Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein ? Sûrement ce qu'ont les hélicos, les chars d'assaut. J'ai beau battre des paupières, j'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer. Mais fermer les yeux, c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon, j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quads rappliquent, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Une projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne, mais Serge est étendu par terre. L'eau ne se confisque pas, ne se gaspille pas, les conditions vitales de l'existence se négocient pas. Ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir, ils ont les gaz, mais nous on tatoue.
Soulève-toi et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au basque.
Soulève-toi
et ils vont craquer.
Sûr que nous aussi, on va passer en force.
Soulève-toi,
ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi, méfiance, méfiance.
face à l'eau qui dort, les projets de bassines sont morts.
Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions de biens, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution de soulèvement de la
Terre. Mais qu'est-ce qui va dissoudre ? Certainement pas mon envie d'en découdre. Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres. Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes.
Coude à coude.
Dissous, je deviens ce que je défends. Je suis prêt à me liquéfier sur champ pour t'exploser aux dents. On est de la mauvaise graine, du chien dent, de la grosse racine qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine. Et c'est par amour pour le vivant, c'est parce qu'il leur resterait peu de temps que la houtarde enfonce les lignes, que le picma enfonce les clous. C'est pour ceux qu'ils ont de sublime, c'est pour qu'ils rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant y'a tant de choses à chérir, à l'affût j'enverrai pas de bout. Je vais m'interposer physiquement, amour et rage vont de pair. Nous sommes la nature qui s'effort, nous sommes les soulèvements de la terre. Sous le couvert de l'anonymat, je vais m'approcher de toi. J'aurai plus de visage, tant pis des taxes ça suffira.
Deviens un spectre,
esprit frappeur, un fantôme. Pas de sabotage, non, du désarmement. C'est ma rage qui veulent dissoudre, je comprends elle n'a pas de prix. C'est l'espoir qui veulent dissoudre, autant assécher la pluie. Mais ils essayent de nous faire taire, c'est là qu'on fait le plus de bruit. Alors mets feu au bulldozer, c'est pour éclairer la nuit.
Et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres, ce sera pour leur coller au bas.
Soulève-toi. Et ils vont craquer.
Sûr que nous aussi, on va passer en France.
Soulève-toi.
Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi. Confiance, confiance.
Ceux qui repoussent partout ne peuvent être dissous.
L'autre jour, on a pris l'autoroute pour y construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction, même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à cultiver, à soigner, à réparer. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être. Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi, ce sera le calme avant la fête.
Eh bien, de retour sur le 93.6 sur Radio Terre-Paille avec un nouvel invité, Anselme Japp qui a sorti il y a 2020, si mes chiffres sont bons, Béton, arme de construction massive contre le capitalisme. Sur le 93.6, sur la radio Béton, on avait déjà interviewé Anselme, c'était au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur les podcasts de Radio Béton. Anselme, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je suis secondé par Manu Mazodier. Un ex de la galaxie Béton, bonjour.
Salut Pascal.
Alors, le béton, pour faire un, non pas un résumé de ton livre, mais tu considères que le béton est un marqueur du capitalisme?
Oui, effectivement, le béton a vraiment parti lié avec le capitalisme depuis ses débuts. Alors, d'un côté, et c'est évidemment l'aspect le plus visible, le béton compte parmi les industries les plus grandes du monde. Donc, et chaque gouvernement qui veut relancer ce qu'il appelle la croissance, évidemment, leur première, souvent leur dernière idée, c'est évidemment d'investir, par exemple, dans les bâtis, de relancer la construction d'autoroutes, de logements, etc. Mais au-delà de l'aspect strictement économique, il y a aussi le fait que le béton, comme d'ailleurs le pétrole ou le plastique à d'autres niveaux, a effectivement participé à cette colonisation de la vie sociale par le capitalisme. Le béton a été un peu, on pourrait dire, une espèce de plante invasive qui finalement, au cours du XXe siècle, a remplacé presque tous les autres matériaux de construction et ensuite aussi toutes les autres techniques de construction. Donc notamment les architectures qu'on peut appeler traditionnelles ou vernaculaires, c'est-à-dire la très grande diversité de façons de bâtir qui existent partout dans le monde et qui donc permettent évidemment aux êtres humains de trouver chaque fois des solutions adaptées à une situation spécifique. Et locales ont été remplacées pratiquement par quelques rares solutions standards à travers le monde entier. Et donc, cela veut aussi dire que ça fait aussi partie d'une espèce d'appauvrissement de façon de vivre qu'on trouve également dans la nourriture, dans les vêtements, dans les langues et à beaucoup d'autres niveaux. Donc si le béton a peut-être apparemment résolu dans l'immédiat quelques problèmes pratiques, dans le sens de, par exemple, de construire rapidement de nombreux logements après la guerre, il a en vérité en plus démontré une fois de plus que le capitalisme en vérité ne signifie pas plus de richesse, mais au contraire, ça signifie au contraire un appauvrissement du monde.
Alors, on dit souvent, quand le bâtiment va, tout va, c'est un peu les politiques depuis les années 50-60, c'est le leitmotiv. Il faut lancer des gros projets de construction, quel qu'en soit le prix. Il y a quand même une collusion entre le monde du béton, le monde du BTP et le capitalisme et les politiques, quel que soit leur, leur côté à l'Assemblée nationale.
Oui, cela aussi facilité par le fait que les bétons, déjà en tant que tel, se prêtent à une extrême division du travail. Donc, tandis avant, on avait les constructions, surtout les maisons étaient faites effectivement par des artisans, donc effectivement par des corporations, donc des gens qui avaient une véritable savoir-faire qu'ils pratiquaient à petite échelle. Tandis le béton, effectivement, se prête à une division entre d'un côté des architectes, des ingénieurs qui projettent dans leur bureau, et de l'autre côté, une main-d'œuvre complètement déqualifiée. Et évidemment, donc, cela facilite aussi la concentration de toute l'industrie du bâtiment. Donc, on commençait l'industrie du ciment, effectivement, dans la main d'une à niveau mondial, je dirais, d'une dizaine de grandes entreprises. Donc, évidemment, qui peuvent facilement donc former évidemment des puissants lobbies, même au niveau politique.
Un secteur aussi, donc on a parlé de côté mafieux, en tout cas qui n'hésite pas à verser des pots de vin, que ce soit à des hommes politiques pour permettre leur réélection, à des groupes terroristes pour pouvoir continuer tranquillement pendant la guerre, de pouvoir travailler, exploiter et fabriquer du béton.
Oui, en même temps, quand même, il faut aussi voir que le béton a aussi eu un tel succès parce qu'il se diffusait pratiquement à tous les degrés de l'échelle sociale et également très, très utilisé par exemple par ce qu'on appelle les autoconstructeurs partout dans les bidonvilles du monde entier. Et donc le béton, comme d'ailleurs d'autres inventions, n'est pas seulement imposé par le haut, mais il trouve aussi effectivement une espèce de relais dans les modifications des modes de vie. On pourrait par exemple comparer là par exemple aussi au Coca-Cola. Coca-Cola, c'est aussi évidemment que c'est une grande multinationale, mais c'est aussi évidemment qui a réussi quand même à imposer sa vision de la vie et de la commodité par exemple par rapport à d'autres boissons.
C'est plus facile de dire non Coca-Cola qu'au béton quand même à un niveau individuel.
Et oui. Oui, évidemment aussi, mais...
Et collectif, je veux dire.
Oui, c'est aussi d'ailleurs aussi la raison pourquoi parfois, par exemple, on dit ah, il faut être architecte, il faut être ingénieur pour pouvoir discuter du béton, parce que là, il faut connaître. Mais ce n'est pas vrai. En vérité, nous tous, nous subissons tous les jours, évidemment, les conséquences de l'architecture. Et on ne peut pas laisser la question de l'habitat à ces 0,1% de la population qui sont architectes, ingénieurs, constructeurs.
Oui, puis alors bon, sur le béton, il y a des grands défenseurs du béton encore aujourd'hui. Je pense à un architecte comme Rudy Ricciotti, par exemple, ouais. Un architecte marseillais qui fils de maçon lui-même, qui se cache derrière ça en disant bah, mon papa était un immigré italien, maçon, il travaillait de ses mains, c'était un vrai artisanat. Le béton, voilà, il défend ça comme ça, et donc un propos assez populiste au fond pour maintenir une architecture qui est la sienne, avec toujours autant de béton d'ailleurs. Ouais.
Ben évidemment, on peut, si on veut, utiliser aussi le béton pour des petites constructions vernaculaires. Mais en général, le béton se prête exactement à grandes constructions. Et de même qu'évidemment, comme je veux dire, avec une Kalachnikov, on peut aussi bêcher son jardin. Mais il ne le fait pas pour ça. Donc, et c'est aussi un autre niveau, peut-être un peu plus abstrait, du lien entre le béton et le capitalisme. Le béton se prête, d'une certaine manière, à la mégalomanie, donc aux très grands projets, à une forme de narcissisme. Donc le béton se laisse complètement faire, parce qu'il vit très différemment, par exemple, de la pierre. Il n'a pas de structure propre, c'est toujours le même. Et donc il n'oppose, disons, c'est-à-dire aucune résistance aux bâtisseurs. Donc il n'est pas demandé aux bâtisseurs de rentrer dans une espèce de dialogue avec les matériaux, comme c'est le cas, comme tous les matériaux traditionnels. Et donc, ça veut aussi dire le béton correspond justement à cette approche brutale envers la nature et envers l'être humain, où on conçoit d'abord une idée, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens conçoivent d'abord les idées, et ensuite ils utilisent la réalité simplement comme une espèce de page blanche où réaliser leur dessin.
Et d'ailleurs, je crois que tu en parles dans ton bouquin, hein, il me semble, dans quelques pages. Tout ça, c'est un nom, en fait. L'archi-mégalo-béton, ça s'appelle le brutalisme.
Oui.
Voilà, donc tout est dans le nom.
Oui, tout est dans le nom, mais en même temps que moi, comme peut-être aussi d'autres, j'avais cru, quand j'ai entendu ce terme au début, que brutalisme, c'était un terme péjoratif créé par cet adversaire. Non, en vérité, il faut dire, il ne vient pas de brutal, mais il vient de béton brut. Et donc, au début, au long terme, c'était le terme qui, effectivement, c'est on utilisait justement pour, comme auto-caractérisation. Mais en même temps, il est vrai qu'aujourd'hui, le brutalisme, c'est le style en général le plus méprisé par le public. Ce sont les bâtiments qui ont détruit le plus souvent. Et aussi, on les détruit pour des raisons esthétiques, mais aussi parce que, dit que le béton était présenté au début comme un matériau presque éternel, on sait maintenant que c'est en vérité qu'il a une durée de vie la plus courte de tous les matériaux de construction. C'est-à-dire, après 30 ans, il peut commencer à avoir de sérieux problèmes à cause de la corrosion de la armature, c'est-à-dire du métal à l'intérieur. Mais de l'autre côté, cela encore arrange une fois bien le capitalisme, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on a réussi à transformer même les bâtiments, ce qui est apparemment la chose la plus stable du monde, dans le domaine des biens à obsolescence programmée et rapide. Donc, c'est une autre, si on veut, un coup de maître du capitalisme, d'avoir même rangé donc, les bâtiments comme une voiture, comme un frigo, dans quelque chose qu'il faut rapidement refaire. Donc, c'est la destruction créatrice, donc c'est avec le capitalisme.
Et je crois que ça s'est d'ailleurs rappelé à nous, et ça a été, je crois, le prétexte de ton livre, avec le pont Montmorency à Gênes, quoi. Je crois que c'est ce qui a provoqué un peu chez toi le désir d'écrire ce livre.
Oui, 2018, donc l'écroulement des ponts appelés Morandi à Gênes, donc qui n'avait pas de raison apparente. Donc c'était pas une construction qui était plus mauvaise que les autres. C'était pas comme les maisons qui se sont écroulées cette année en Turquie, parce que là on savait en plus que c'était évidemment disons à la piètre qualité du matériau. Mais dans le cas de Gênes, cela au contraire, cela démontrait qu'en vérité aucune construction faite en béton armé n'est à l'abri d'une détérioration rapide et souvent très difficile à détecter.
Et puis c'est une industrie, enfin un secteur, le bâtiment et le béton qui est assez copine avec l'immigration illégale. Ça les gêne pas tellement qu'il y ait des gens, ils seraient assez pour non pas les naturaliser, mais au moins en tout cas pouvoir continuer à les utiliser, à les...
Oui, comme je dis, donc le béton en tant que tel se prête à cette division du travail où on n'a pas besoin d'artisans donc spécialisés, mais effectivement n'importe quelle manœuvre pour faire l'affaire, et donc cela évidemment c'est donc une jungle de travail qui est facilement donnée effectivement aux migrants illégalisés. Donc et voilà, effectivement, dans les grandes constructions, ben c'est peut-être le cas depuis les pyramides en Égypte. Donc il y a quelque chose qui pousse vers l'esclavage. Et donc il y a une espèce de lien intérieur. Hein.
Ok, ben merci Anselme pour cette contribution à l'aspect capitalistique du béton. On va se faire une petite pause musicale avec Assassin qui va nous parler du futur. Mais que nous réserve-t-il ce futur? Et puis ensuite... on continuera avec Manu à parler justement un petit peu de bâtiment, parce que c'est un professionnel, hein, c'est un représentant non pas du monde du béton mais du monde du BTP.
Oui, pour bois terre paille, BTP. Hein.
Le futur, que nous réserve-t-il? De moins en moins de nature, de plus en plus de villes hostiles qui se profilent face à leur politique tranquille. Attends 80% de ghetto dans nos villes comme au Brésil. Je suis issu d'une génération qui n'a que la confrontation pour faire passer ses idées au sein de sa nation. Au sein de sa nation, avec sa nation, contre sa nation. Mais de toute façon, la conception de nation démontre une perception restreinte pour une vision humanitaire. J'aime la terre, mais mes adversaires imposent des frontières, profitent des frontières, s'enrichissant mes frères, s'enrichissant la terre. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Dites-moi, quel est mon avenir? Vais-je dépendre des grandes puissances comme la France qui dépense, qui pense, qui finance pour une audience, qui perd patience, qui prend conscience, qui swing sur mon avance? Pour nos pères, nos mères, nos frères, pour la jeunesse et l'enfance, pour les bas-fonds, pour les hauts-fonds, pour mon éducation, pour la communication, je prends position et les solutions se faufilent. Mais la question reste, le futur, que nous réserve-t-il? Que nous réserve-t-il? Que nous réserve-t-il?
sur le terroriste qui compte en scène et dans critique, titille ton esprit pour insuffler un mouvement positif à tes idées, tes pensées. Car c'est en comprenant d'où l'homme vient que l'on sait d'où il va. Suis dans ton swing, descripteur, dénonciateur, mais avant tout, interrogateur, où nous mène-t-on? Avec en plus notre approbation, volée par le biais de la manipulation. De droite à gauche, de gauche à droite, tout puis l'arnaque. Ils savent que je le sais, mais verser ça cache leurs intérêts, car j'accélère la prise de conscience d'une génération qui pense et j'en moule tout pour que le monde avance dans le bon sens. Lavé de ce perfect bordel universel que nos pères nous ont légué, clé en main, culpabilité en sus. À nous trouver le moyen d'inverser le processus de ce scénario catastrophe dont les prochaines victimes seront mes gosses, tes gosses, nos gosses, vos gosses. Alors quitte-moi le futur, que le réserve-t-il?
Respire, expire, écoute, regarde le signe. Que nous fait la nature, le futur, que nous réserve-t-il?
Il est temps de réagir.
Que nous réserve-t-il?
Il est temps de réagir.
Politique, contrer l'économie capitaliste par l'abrogation des institutions. Les multinationales occidentales ne voient que leur intérêt. Le profit, l'exploitation de l'homme doit stopper. Le combat ne sera pas dans les urnes mais dans la rue. Le peuple doit se soulever pour être reconnu. L'idéologie n'a aucun poids sans une action politique. Et vice versa pour que l'assaut ait une allure honorifique. Pour l'homme, pour qu'une conscience humanitaire on ressort au maximum. En somme, le futur nous réserve ce que l'on façonne. Tu penses que je chantonne, mais la chanson a un côté populaire quand elle résonne. La CEE organise à travers l'application de ses institutions l'appauvrissement des pays en voie de développement. Et dans 20 ans, 90% de la population se retrouve à l'ancienne nation. Alors dites-moi le futur pour ces prochaines générations.
Nothing else but confrontation.
Ne comptez pas sur la bonne conscience des dirigeants. Les personnes au pouvoir sont addictes à l'argent sans scrupule. Elles défendent leurs intérêts et leur intérêt premier est d'exploiter celui qui est à côté. Quel est l'avenir de la planète quand personne se respecte? Le futur que nous réserve-t-il? La question se répète.
Un futur
que nous réserve-t-il?
Il est temps de réagir.
Voilà, bienvenue sur le 93.6 sur Radio Terre-Paille. On est de retour rue Nationale, en haut, à côté des magnifiques hôtels en faillite, je crois, à moitié béton, à moitié, je sais pas, un espèce de quelque chose qui essaie de nous faire croire que c'est du tuffeau. Non, c'est ça, Manu, toi qui es un professionnel?
Alors, je pense que c'est des revêtements en véritable pierre. Hein. On colle ça sur du béton. D'accord. Mais c'est un noyau béton, ça, c'est D'accord. sûr.
C'est du plaqué, quoi, en fait.
Exactement, c'est ce qu'on fait un peu de partout. Hein.
Bon, donc, on a vu avec Anselme le côté capitaliste du béton, sa participation active à ce monde capitaliste. On va parler un petit peu maintenant d'alternatives à la construction. On n'est pas obligé, c'est pas une obligation d'utiliser le béton. Et donc, toi, tu bosses dans la construction alternative, c'est ton métier.
C'est ça. Alors, je suis passé un peu par plusieurs étapes. J'ai un peu commencé dans les énergies renouvelables, mais très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça que je voulais faire. Donc, j'en suis passé à la construction paille-terre. Voilà, aussi bien en... Alors, j'ai commencé plutôt dans un bureau. Après, j'ai fait du chantier, voilà, en accompagnant des autoconstructeurs, en animant des chantiers participatifs. Et puis, le bâtiment étant ce qu'il est, je me suis flingué la santé. Et donc, je suis retourné dans un bureau pour accompagner aujourd'hui plutôt de la maîtrise d'ouvrage public. Sur des projets qui utilisent des matériaux voilà, qui sont dits écologiques. Officiellement, l'ADEME appelle ça des matériaux biosourcés. Voilà.
Donc en fait, c'est vraiment pas une fatalité d'utiliser du béton. Il existe des solutions qui sont utilisables pas seulement par des éco-terroristes, mais par des gens, par n'importe qui, y compris par des collectivités territoriales, ou même l'État peut-être, qui voudrait arrêter la construction béton.
Exactement, alors c'est déjà le cas. Je reviendrai là-dessus après, c'est pas franchement une alternative, mais je m'expliquerai pourquoi. Mais c'est déjà le cas. On a en région centre, on a une centaine de bâtiments publics isolés en bottes de paille, des lycées, des écoles, des collèges, des mairies, des gymnases comme à Druy, là, dans la périphérie de Tours. À Ligueuil, on a une cantine. Vous voyez, il y a pas mal de. Voilà, ça, au total, une centaine de bâtiments. Et on a surtout le bâtiment le plus vieux en paille d'Europe, qui est à Montargis, qui a plus de 100 ans. voilà, qui est encore debout, qui est, quand on a enlevé, le, quand on allait regarder l'état de la paille dans le grenier, elle était jaune d'or. Elle bouge pas en fait, c'est un matériau qui se conserve très bien. Donc on fait déjà des choses en fait, voilà. Mais c'est pas vraiment en fait, si on réfléchit, c'est sympa, on sait faire du neuf écologique, mais la véritable alternative, au fond, c'est de ne pas construire. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il faut...
Ah oui, c'est là où tu virais éco-terroriste. En fait, la meilleure voiture, c'est celle qu'on
construit. Exactement, pas. Donc le meilleur bâtiment, c'est celui qu'on ne construit pas. Par contre, c'est celui qu'on rénove. Et là, on a un gros, gros chantier en France. Certains disent que... Enfin, voilà, des gens du milieu des économistes du secteur disent qu'en fait, c'est le chantier de la rénovation thermique pour un pays comme la France, c'est en volume plus important que la reconstruction d'après-guerre. Donc ça donne un peu la taille du chantier, quoi. C'est énorme. On a en France, bon, à chaque fois je reprends mes notes parce que je retiens jamais, mais on a au total 37,8 millions de logements. Il y en a 49% pardon, qui datent d'avant 1948, donc qui sont pas construits justement en béton ceux-là, mais qui sont des passoires thermiques pour beaucoup. Donc voilà, il va falloir rénover tout ça et ne pas le rénover avec des matériaux comme de la laine de roche, comme du PU, donc c'est du polystyrène, parce que là, ce sont des matériaux très carbonés et qui, alors, sont des vraies catastrophes. Donc, si on s'amuse à rénover l'ensemble du parc immobilier français avec ces matériaux, on va croître en émissions carbone. Donc, on a tout intérêt à utiliser d'autres matériaux d'origine végétale.
Mais est-ce que c'est vraiment un sujet dont tout le monde s'empare? Parce que, bon, on a reçu... sur Radio Béton, les gens de dernière rénovation. Finalement, est-ce que dans le cadre des politiques publiques menées par les villes, les départements, les régions, par l'État, cette rénovation, on dit que les propriétaires ne pourront plus louer les appartements ou maisons qui sont catégorisés E ou F, mais ils sont déjà en train de dire qu'il y aura.
On va reporter, ben oui, parce qu'on.
Il y aura un report, mais finalement, personne ne fait grand-chose, quoi, non?
Alors, il y a des choses qui se font, il y a quand même des choses qui se font, mais ça reste marginal. En gros, il y a une question de coût. Je vais revenir au début de ta question. Oui, on va dire, le monde institutionnel est en train de s'emparer de cette question de manière, ils se font peur là, hein, parce qu'ils se rendent compte du vertige que ça, de l'immensité du trou devant lequel on est, et du coup, on réentend une petite musique redistributive de dire il va falloir redistribuer les richesses pour les flécher vers la rénovation thermique. Donc ça, c'est des choses qu'on se met à entendre dans des colloques. Hein. Enfin, moi, j'entends ça à des endroits où je ne m'attendais pas à les entendre. Donc il y a une petite musique comme ça qui est en train de se remettre, mais on en est que là. Il va falloir mobiliser en effet des milliards d'euros pour rénover l'ensemble du parc français. Donc il va falloir que ça sorte de quelque part. Et ensuite, on a un deuxième gros problème. Et ça, on pourrait en témoigner avec Marie qui est en face de moi. Il y a un manque cruel de gens pour bosser sur les chantiers, en fait.
Tu parles de main-d'œuvre ou d'artisans?
Les deux. Enfin, une main-d'œuvre des ouvriers spécialisés dans la construction.
Ou d'artisanes. Hein.
Des artisans, des artisanes. On parle de différents niveaux parce que ça dépend des régions. Nous, dans notre région, on a 75% de l'habitat existant, c'est de la maison individuelle. Donc, les typologies pour rénover ce type d'habitat, c'est en effet plutôt des artisans et des artisanes. Mais qu'on ont des salariés aussi. Hein. Donc il va falloir former tout ça. Et là, quand on regarde un peu à la loupe, déjà les formations n'existent pas, ou très peu. On en a quelques-unes. On a une à Montargis, qui consacre à la rénovation écologique. Mais on a quand même ça aussi, c'est pas un petit problème. Quoi. Qui veut y aller, quoi? Qui veut remonter les manches? Qui veut se faire mal au dos? Parce que je disais, moi je me suis flingué la santé quand même avec les chantiers. La question se pose. Quoi. Et aujourd'hui, comment on fait? J'ai pas forcément la solution, en fait.
C'est foutu, quoi.
non, c'est jamais foutu, parce qu'il y a, ça avance quand même. Hein. Et donc, on va parler un peu de ce qui se fait quand même, parce que je te disais qu'il y a quand même des choses qui se font. Il y a des associations aujourd'hui qui essayent de monter des dispositifs pour répondre à ce besoin de rénovation. Alors, je pense à des associations comme Ecobat, à Dorémy. C'est des structures, en fait, qui essayent qui vont aider les particuliers à isoler chez eux pour faire des rénovations, ce qu'on appelle globales. Parce que tu sais, aujourd'hui, on fait essentiellement des rénovations par geste. Alors, par geste, soit on fait le mur, soit on change les fenêtres, soit on isole le toit, mais en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, tu vas garder, tu vas garder les ponts thermiques, tu vas garder les fuites d'air, tu vas conserver tout ce qui déconne en fait dans la maison et qui fait qu'on chauffe comme des ânes. Donc ça, c'est pas bon. Donc il faut faire des rénovations globales. Et ça coûte cher. Et pour ça, ces associations se proposent de, en fonction des revenus des particuliers, des bailleurs, donc les propriétaires occupants, hein, y a beaucoup, là aussi, il y a pas mal de gens pauvres, en fait, et qui peuvent être aidés par des aides de l'ANA. Mais c'est très compliqué à aller chercher. Et ces associations se proposent d'aller chercher les aides et de monter le programme de rénovation pour le particulier. Voilà. Donc c'est et ça permet de faire bosser les artisanes et les artisans ensemble, de répondre collectivement à ce défi qui est voilà. Donc ça c'est une belle solution en fait je pense. Mais maintenant il faut quand même mobiliser des gens qui ont envie de faire ça quoi. Et aujourd'hui bah je sais pas, j'ai pas l'impression que les formations se remplissent dans le monde du bâtiment.
Tu parlais aussi de l'arrêt de l'artificialisation des sols. Enfin en tout cas le mieux ça serait de ne pas construire, mais est-ce que c'est une vraiment une position tenable? Est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont à la recherche d'un logement? Il y a besoin de construire ou il n'y a pas besoin de
Alors,
construire?
Il faut voir les choses un peu différemment. On entend régulièrement là, depuis une semaine une petite musique, hein, on l'entend depuis longtemps, qui est de dire il y a 2,5 millions de foyers qui attendent un logement social. Donc on dit la réponse serait de dire on va construire ces logements. Et en fait, non. Le problème, c'est pas l'absence de logement, c'est que ces gens ne peuvent pas payer des logements déjà existants parce que trop cher. Et voilà, ils s'inscrivent pour avoir du logement. Donc l'idée, c'est pas de construire 2,5 millions de logements. C'est encore une fois, alors ça veut passer par des trucs assez radicaux. Hein. À Tours, par exemple, on a eu plus de 8 000 logements vides, dont 2 000 qui sont vides depuis plus de 2 ans. Voilà, donc là, on pourrait préempter et loger des gens à moindre coût. Voilà, donc c'est une première réponse. On pourrait aussi mieux payer les gens. Enfin, j'en sais rien, tout est possible en fait. Quoi. Mais le problème, c'est pas le manque de logement. Le problème, c'est le manque de moyens pour se loger. Bon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà.
Au niveau de la construction, donc les solutions bois, terre, paille. Donc la paille, bon, on est assis justement sur de la paille. Bon, pas de problème, ça se trouve dans la région. De la terre, on prend de la terre, c'est une terre spéciale?
Ouais, alors la terre crue, c'est évidemment pas la terre végétale qui est la première qu'on ramasse. Hein. C'est les couches qui sont en dessous. Et en fait, la terre crue, c'est de la décomposition de la roche-mère. Donc c'est une roche-mère en putréfaction, c'est de la pourriture en fait, la terre crue. C'est un très bon liant, ça colle plein de choses. Mais je suis pas tout seul autour du plateau, on pourrait.
Et du bois, et en ce moment, c'est quand même la crise du bois. Le bois coûte de plus en plus cher. Alors il n'y en a pas beaucoup.
Là, c'est redescendu. Bon, déjà, là, c'est quand même c'est bien redescendu. Le problème du bois, il est assez complexe. On entend dire on n'est pas capable de construire tout en bois. Alors, à équivalent du béton, oui, c'est vrai, on va pas pouvoir mobiliser autant de bois qu'on mobilise de béton pour construire autant de neuf. Mais comme je viens de le dire, ça, il faut arrêter. Donc, réservons le bois au bon usage, au bon endroit, à l'endroit de la rénovation thermique. Alors, néanmoins, la forêt, on en a beaucoup en région centre. Hein, on a une belle forêt entre la Sologne, la forêt d'Orléans, on en a même là dans l'ouest du département d'Indre-et-Loire. On a pas mal de feuillus. Et donc, on a du bois disponible qu'on pourrait, en faisant intelligemment, là aussi, hein, il faut gérer la forêt d'une certaine manière, qui n'est pas celle qu'on voit la plupart du temps. Voilà, donc déjà, il faudrait savoir faire ça. On n'est pas toujours en mesure d'exploiter le feuillu pour faire de la construction aujourd'hui. On exploite le feuillu pour faire du bardage, du lambris, du parquet, des choses comme ça. Mais voilà, pas de poteaux poutres, pas de choses comme ça. On n'est pas, on sait faire, mais voilà, l'appareil d'exploitation du bois aujourd'hui, il n'est pas en mesure de le faire. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, on nous dit souvent, il n'y aura pas assez de bois. On est confronté à d'autres problèmes. Alors ça va être un peu compliqué. On a des arbres qui sont malades, l'épicéa par exemple, et une maladie qui s'appelle le scolyte, c'est un petit parasite qui bouffe l'arbre. Si on coupe l'arbre, le scolyte meurt, mais il se trouve qu'on a du bois exploitable en fait. Et donc on va se retrouver avec des tonnes et des tonnes d'épicéas dans les années à venir. Il va bien falloir s'en servir et je pense que c'est tout fléché vers la construction. Alors certains me diront, mais ouais, mais on n'est pas obligé de les couper. Ah si, parce que si on ne les coupe pas, le scolyte il va faire pourrir l'arbre sur pied, l'arbre va tomber, il va libérer du carbone. Et là, c'est une vraie catastrophe en fait en devenir. Hein. Je veux dire, un arbre qui meurt, c'est du carbone libéré. Donc autant le conserver dans des murs. Dans la rénovation. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Mais...
Non, si, c'est clair. La construction bois, terre, paille, c'est aussi l'occasion de pouvoir repenser la façon de construire, une façon plus participative, où ce n'est pas juste un architecte qui pond un plan, et ensuite des artisans qui... mais c'est la possibilité des chantiers participatifs. Quoi.
C'est pas... Marie, moi, je fais plus, mais toi, tu fais aujourd'hui. Donc,
Marie.
Oui, bonjour. Bah en fait, même un archi peut pondre un plan et qu'on fasse quand même du chantier participatif derrière. Après, il y a des personnes qui auto-construisent et qui vont du coup du début à la fin et qui se réapproprient l'acte de bâtir dans son ensemble. Et du coup, il y a avec le bois, la terre et la paille, il y a des solutions qui sont justement accessibles où le bâtiment ne va pas être quelque chose d'expert, quelque chose d'ingénieur. Alors... désolé pour les ingénieurs, mais quelque chose qui devient plus simple, plus accessible, pas moins complexe, mais en tout cas plus accessible. Et voilà, ces matériaux bois, terre, paille, c'est des matériaux qui sont peu transformés et qui sont du coup plus accessibles. Il y a des techniques qui sont plus accessibles. Donc voilà, ça...
Bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure avec toi pour finir avec Manu. Donc... des collectivités lancent des gros projets de construction. Parce que quand on fait des écoles, des gymnases, c'est quand même c'est pas une petite maison individuelle faite par des gens qui sont sensibilisés. Là, c'est un...
Non, mais on voit quand même. Alors plutôt, c'est souvent en Bretagne d'ailleurs, c'est marrant. On voit des projets d'écoles, de bâtiments publics importants qui vont faire qui vont avec les habitants du village. Regarde, des sessions de chantier participatif, on commence à voir ce genre de choses. Alors, c'est pas inintéressant.
Et ce sont des projets qui sont aussi gros que.
Les projets auxquels je pense, c'est quand même des projets qui sont pas, c'est pas des petits trucs. Hein. Il y a quand même des surfaces d'enduit, parce que c'est souvent sur les enduits en terre à l'intérieur qu'on fait du chantier participatif, sur la pose des bottes de paille. Non, il y a des belles surfaces des fois. Ouais.
Et en termes de thunes, c'est plus cher que de la construction traditionnelle. Traditionnel, de la construction en béton.
Oui, on dit traditionnel en fait. Hein. C'est ça qui est bizarre. On emploie le terme traditionnel pour parler du béton. Mais bon, vas-y.
Oui, alors qu'on devrait dire conventionnel, ouais, puisque la construction traditionnelle, c'est autre chose.
C'est pour ça que j'ai bugué sur le...
Merci pour la précision. Et du coup, alors ça dépend des techniques en fait. Pour les gros bâtiments publics auxquels on ne fait pas appel à du participatif, aujourd'hui on arrive à des coûts de plus en plus similaires. Alors on a encore des surcoûts évidemment, hein. Mais là le surcoût il a été pour toute la construction, même pour le monde du béton et de l'acier, parce qu'ils ont pris 15%, 30%, 50%, ça dépend des bâtiments. Mais voilà, donc il peut y avoir encore un léger surcoût, mais par exemple sur la construction bois-paille, aujourd'hui on arrive à des coûts égaux, parce qu'en fait on fait ce qu'on appelle du hors-site, du préfabriqué en atelier, et on vient monter ça sur le chantier. Alors on a des gains, c'est énorme, hein. On gagne 6 à 8 mois sur un chantier. Après fabriquer en atelier, donc on remplit des ossets turbo avec des bottes de paille. Alors c'est très mécanisé là aussi, hein. Il y a peu d'intervention humaine aujourd'hui pour les plus gros producteurs de ce type de modules. Et c'est comme ça qu'on a fait le gymnase de Druy, par exemple. Quoi. C'est une entreprise de la Vienne qui a fait le bâtiment, qui est équipé pour répondre à ce type de demande. Donc ils sortent des caissons qui peuvent faire 6 à 8 mètres de long, avec les ouvertures, ainsi de suite. Ouais. Et on vient monter ça sur chantier. Donc là, ça permet de faire tomber les coûts.
Et en une, deux journées, les murs ils sont montés et bim quoi.
Voilà.
Bon, on va faire une petite pause musicale et ensuite on reviendra sur justement sur le côté artisan, enfin la construction. On va s'écouter toujours dans la playlist de Radio Terre Paille Bob Marley avec Concrete Jungle sur le 93.6.
Concrete jungle, man.
La dernière partie de cette Radio Terrepaille en direct du haut de la rue Nationale. Eh bien, on est avec Marie Cornuel, qui est une artisane qui travaille justement dans le BTP, le bois terrepaille. Bonjour.
Tout à fait, bonjour, salut.
Alors, parle-nous un petit peu de ton métier.
Mon métier, c'est d'animer des chantiers participatifs pour globalement quand même des personnes qui vont auto-construire une maison individuelle. Et du coup, j'accompagne ces personnes-là et j'accueille des bénévoles pour essayer de les mettre dans des conditions les plus idéales possibles pour que les bénévoles apprennent, se réapproprient du savoir manuel et technique sur le bâtiment. Et puis voilà, on va construire, on va mettre les bottes de paille dans les murs, on va faire de l'enduit sur ces bottes de paille.
Pour faire ça, t'as quelle expertise ? T'as passé
J'ai un CAP.
Un CAP.
D'accord. Ouais, voilà, c'est un diplôme en 9 mois autour de la construction écologique.
Voilà, il existe des formations, des diplômes.
Alors, il y en a plusieurs. Vous allez avoir des personnes qui vont faire du bâtiment traditionnel. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette formation-là.
Ouvrier spécialisé en rénovation de patrimoine, c'est ce que j'ai fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, Manu a fait ça. Moi, j'ai fait ouvrière professionnelle en éco-construction, qui est plus généraliste. Vous allez avoir des formations, notamment à Saint-Nicolas-de-Redon, qui vont s'appeler maçon-maçonne terre crue. Voilà, il y a un peu ces formations-là. Puis après, il y en a une autre qui est technicien du bâtiment écologique, je crois. Donc, il y en a de plus en plus de formations, sauf qu'il n'y a pas, comme disait Manu tout à l'heure, il n'y a pas assez de centres de formation. Il y a des centres de formation qui ont des fois pour 12 places, 60 demandes ou 70 demandes par an. Du coup, il n'y a pas assez de centres de formation, il n'y a pas assez de personnes.
Manu disait qu'il n'y avait pas assez de gens, et il ne disait pas qu'il n'y avait pas assez de places.
Oui, mais ça va avec. Oui. En fait, d'accord. Ça va avec.
Ah oui, non, mais j'ai cru qu'il y avait une crise de la vocation, entre guillemets.
Il y a une crise de la vocation, mais là, c'est encore autre chose. Mais elle a raison, Marie a complètement raison. Il n'y a pas assez de place.
Il n'y a pas assez de place.
C'est pas beaucoup, 60 personnes.
Oui, bien sûr.
Il en faudrait beaucoup
plus. En tout cas, En tout cas, ici, en région centre. Il n'y a clairement pas assez de personnes qui savent construire en paille, qui savent enduire en terre.
Et donc ça, c'était un rêve de petite fille, quoi.
Pas du tout. C'est juste la terre, c'est super. Franchement, essayer de mettre la terre sur les murs,
c'est
super.
Parce que t'aimais bien marcher dans la gadoue quand t'étais petite, et c'est ça qui...
Franchement, c'est trop bien. Après, il y a des personnes qui adorent aussi faire du bois, quelque chose de plus sec dans la construction. Moi, j'adore patouiller dans la terre. Et en plus... souvent, les gens qui essayent, ils aiment aussi. Du coup, il y a un truc de... Alors, je sais pas, on pourrait faire de la philosophie ou de l'ésotérisme.
La psychanalyse, plutôt.
en lien avec la terre, de retrouver. Mais on peut aussi juste kiffer le fait de mettre de la boue sur le mur et qu'à la fin, ça fasse quelque chose d'extrêmement joli.
Donc,
vous ne pouvez pas avoir de photos parce que c'est la radio, mais vraiment, si vous voyez des photos, ça serait super.
Chantier d'éco-construction, chantier participatif, il y a une grosse demande comme ça
Je ne sais pas s'il y a une demande, mais en tout cas, pour des chantiers participatifs, Je pense qu'il n'y a jamais des gros manques de bénévoles. Les gens veulent apprendre. Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui veulent apprendre. Après, encore une fois, un chantier participatif, c'est pas rien, parce que c'est des personnes qui vont venir bénévolement donner de leur force de travail. Donc, il y a un peu une idée. Enfin, en tout cas, moi, j'exige des personnes qui autoconstruisent et qui accueillent, qu'il y ait un accueil qui soit vraiment fait de qualité, parce qu'on n'est pas sur des bénévoles qui vont devoir payer. Les bénévoles, ils sont nourris, logés. On prend soin d'eux et moi j'essaye au maximum de pas les épuiser, même s'il y a des personnes qui arrivent des fois qui connaissent pas du tout le travail physique et qui 35 heures de travail physique pendant une semaine, les personnes repartent fatiguées, c'est une réalité, mais c'est important de prendre soin des personnes qui viennent là bénévolement donner de leur force de travail. Donc moi j'essaye de mettre un point d'honneur là-dessus.
C'est sur quel genre de chantier? C'est sur des petits chantiers, des gros, enfin.
C'est des maisons individuelles.
D'accord.
Donc,
Mais une maison individuelle en bois terre-paille, ça représente quoi comme volume de?
C'est entre 90 et 130 mètres carrés habitables.
D'accord. Et ça prend combien de temps à être monté si tout est déjà non pas préfabriqué, mais en tout cas préassemblé?
La charpente et l'ossature, elle est faite. Souvent. Et du coup, les bottes de paille, ça dépend de la surface, mais en deux semaines, toutes les bottes de paille, elles sont mises. En deux semaines, les enduits de corps, ils sont faits. Et puis après, la finition, c'est un peu plus particulier parce qu'il y a des fois des exigences qui sont un peu plus importantes pour les personnes. Et du coup, des fois, ça se fait en chantier participatif, des fois pas. Mais du coup, on est sur un. En fait, ça coûte pas forcément moins cher de faire appel à des bénévoles qui ne seront pas payés, que c'est du travail qui ne sera pas payé, parce que ça va être du temps long, ça va être... l'idée, c'est vraiment que les personnes, elles apprennent. Donc, il y a des moments où moi, j'arrête et on fait des points techniques et on parle d'autres choses. Le timing, c'est... Oui, voilà, c'est ça, c'est en 4 semaines, on a mis l'isolation et du coup l'enduit terre, il fait aussi étanchéité à l'air. Donc on a fait l'étanchéité à l'air et on a protégé l'isolation.
D'accord. Et ces constructions en bois terre-paille, elles sont aussi solides que...
hyper solide, vous pouvez pas imaginer. En fait, c'est hyper solide.
À cause du grand méchant loup et des petits cochons...
Horrible, les trois petits cochons.
La paille, c'est dans l'inconscient collectif... C'est vraiment pas solide du tout. Il suffit de souffler et ça s'envole.
Mais je pense que quand les personnes, elles portent une botte de paille qui fait 12 kilos,
c'est
là,
vrai.
Elles se disent, bon, ok, d'accord, peut-être ça va être un peu solide. Non, comme disait Manu, la maison en Europe, la plus vieille maison en paille en Europe, elle a plus de 100 ans. Et la paille, elle est nickel. Donc en fait, si c'est bien, c'est comme tout. Si c'est bien fait, si on respecte les règles, puisque la construction paille, elle a des règles professionnelles, si c'est bien fait, le truc, il tient. C'est des maisons pour plus de 100 ans. C'est mortel, c'est hyper bien. On n'a pas fait mieux.
Et
depuis parlons longtemps.
Parlons de l'épaisseur des murs, parce que du coup, une botte de paille, c'est quand même déjà, ça fait presque 36, voilà. Donc ça veut dire que les murs doivent être assez, on se croit, de château fort, non, c'est ça?
En vrai, non, ça va plutôt bien, parce que si par exemple on prend des vieilles maisons en pierre, oui, les murs, ils font 50 cm,
c'est
donc
vrai.
En fait, on est à peu près sur la même...
Dans les fameuses maisons où il ne fait pas trop chaud, les murs sont épais, c'est ça?
Exactement. Et en fait, comme souvent, l'isolation paille, c'est de la construction neuve, du coup, c'est pris en compte dès le début du projet. Effectivement, sur la rénovation dont parlait Manu, qui est le point sur lequel il faut se préoccuper, y a un peu d'autres techniques où on utilise les mêmes choses, les mêmes matériaux. Par exemple, du terre-paille banché. En intérieur, sur des maisons en pierre, c'est hyper intéressant parce que ça vient casser la sensation de paroi froide de la pierre. Et du coup, on est sur des épaisseurs moindres et donc on perd moins de surface à l'intérieur. Mais en tout cas, quand on parle de terre et de paille, on ne parle pas seulement d'isolation avec des bottes de paille, avec un enduit terre, on parle aussi de plein d'autres techniques. Et du coup, c'est des matériaux qui vont très bien ensemble, mais il y a plein d'autres techniques qui sont aussi utilisables en rénovation.
Question pour tous les deux. En fait, ces projets dont on parle là, c'est pas des projets citadins, c'est plutôt des projets ruraux.
C'est un des grands enjeux, je trouve. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans ce métier et je trouve qu'un des grands enjeux, c'est qu'est-ce qu'on fait à la ville. En fait, il y a des assos qui font des trucs super comme les compagnons bâtisseurs et qui bossent sur faire en sorte que les logements ils soient mieux. Mais comme disait Manu, il y a un vrai besoin de rénover des logements en ville. Et là, là il faut que les pouvoirs publics ils fassent des trucs, en fait.
Alors, sur la question de la ville et de la construction en paille, à Tours, il y a, ou, à ma connaissance, en tout cas connue, il y a une dizaine de maisons en paille et d'extensions en paille. Mais il y en a sûrement plus, en fait, ça, c'est celle que je connais par oui dire. Donc non, ça se fait aussi dans les villes, en fait. Hein. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Après, il y a des techniques d'isolation par l'extérieur, aujourd'hui en paille. On commence à maîtriser ça. Il y a un travail de rédaction de règles professionnelles qui sont en cours actuellement. C'est un travail essentiel parce que c'est ce qui va permettre de rendre assurable le geste de l'artisan et de garantir, on va dire, une certaine pérennité des travaux. Bon. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est compliqué, mais alors, en tout cas, on sait faire. Il faut que ça se développe.
Mais il y a des enjeux aussi sur ces questions-là de périmètre de bâtiments de France, d'accepter aussi des façades qui vont être un peu différentes de ce qu'on connaît, de la tradition. Et du coup, il faut aussi que des personnes qui ont le pouvoir de dire oui ou non à certaines techniques, elles fassent un peu un pas de côté et qu'elles arrêtent d'être un peu encadrées dans leur manière de penser, quoi.
Bon, eh bien, je vous remercie tous les deux. On refera une émission pour parler un petit peu plus profondément de ce sujet. C'est l'heure de rendre l'antenne à Radio Béton, au véritable propriétaire du 93.6. Prochain rendez-vous pour nous mardi à 18h. On parlera de territoire zéro chômeur. Voilà, merci. Merci Arnaud qui était à la technique. Et merci à toute l'équipe des Soulèvements de la Terre. C'était Radio Terre Paille.
Merci.
Merci Radio Terpel.
Merci Radio Terpel.
Vous êtes trop fort.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.